les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Comme le juif errant, il fera le tour du monde. Il, c'est Lavared. Il est charmant, le monstre, dit de lui une jeune femme. D'un côté, 4 millions à gagner, d'un autre côté, 5 petits sous à ne pas dépenser intégralement, voire à conserver en poche. Au début des années 80, sur France Culture, débutait un feuilleton tiré de l'œuvre de Paul Divoy et Henri Chabriat, Les 5 sous de Lavared. En voici les deux premiers épisodes.
À compter d'aujourd'hui, vous aurez le plaisir de retrouver chaque jour, du lundi au vendredi à 18h30, Dominique Paturel,
Armand Lavared,
Evelyne Dandry,
Aurette Merliton,
Philippe Derez,
Bouvray,
et Philippe Clay.
Ouais, c'est un Merliton.
Dans
Les 5 sous de Lavared.
Version radiophonique de Philippe Derez du roman d'Henri Chabriat et Paul Divoy. Musique d'Edgar Bischoff. Orchestre sous la direction de Raymond Chevreux. Ambiance, Louis Matabon. Réalisation, Georges Godbert. Aujourd'hui, premier épisode.
Lavared fait un fabuleux héritage.
Le bureau cossu de Monsieur Bouvreuil.
Enfin, alors, votre réponse, Monsieur Lavared.
Elle tient en un mot, Monsieur Bouvreuil, jamais.
Mais vous réfléchissez encore.
Assez tôt réfléchi.
Mais vous ne comprenez donc pas que je vous tiens. Si vous me poussez à bout demain, moi je fais vendre vos meubles, vous vous retrouverez à la rue.
Vous pouvez même ajouter sans un sou.
Eh ben, vous voyez bien. Alors que, si vous consentez, si vous changez d'idée, moi, je vous offre un beau mariage, la fortune, l'indépendance.
En somme, si je devenais le gendre de Monsieur Bouvreuil, ancien agent d'affaires douteuse, ancien indicateur de police, ancien...
Hé là, je vous en prie, non, un petit journaliste minable ne devrait pas parler sans savoir. Vous devriez être honoré de devenir le gendre d'un gros propriétaire, d'un riche financier. Sans compter que ma fille, ma chère Pénélope, vous aime. Et laissez-moi passer sous silence les espérances qu'elle est en droit d'attendre de moi. Une très grosse dot.
Votre fille est hors de cause, monsieur Bouvreuil. Ce n'est pas le mariage qui me répugne, ni la demoiselle que je refuse. C'est le beau-père qui me dégoûte.
Monsieur Lavared, vous vous laissez aller à des écarts de langage fâcheux.
Monsieur Bouvreuil, je pense que ceci va mettre fin à notre entretien. Je m'en fous éperdument.
Ah ben voilà, je me doutais bien que la conversation avec vous serait délicate. Tant pis, mon cher Lavared, je vais utiliser une autre méthode.
Allons bon.
Eh oui, ce dossier que je viens d'ouvrir contient, vous pouvez le voir, du papier timbré, des quittances de loyer, des reconnaissances de dette.
Oui.
J'ai tout racheté, mon cher, tout. Vous ne devez plus rien à personne.
Oh, vraiment, je suis confus, vous êtes trop bon, il fallait pas.
Ah, mais si, parce que maintenant... Je suis votre unique créancier.
Ah.
Alors, ou vous épousez Pénélope et je vous remets le dossier et nous oublions tout.
Ou bien
vous refusez et je vous poursuis à outrance.
Poursuivez, mon cher Bouvreuil, poursuivez.
Oui, mais il y en a pour 20 000 francs, monsieur Lavared. Avec les frais, la somme doublera.
Vous êtes expert en choses de justice. Si vous dites que ça doublera.
Monsieur Lavared, je ne suis pas un mauvais bougre. Je vous demande instamment de prendre une décision. Je le dois à Pénélope et par ailleurs, je dois partir pour Panama. Un syndicat d'actionnaires m'a chargé d'une enquête sur place.
Je suis heureux et rassuré de ne pas appartenir à ce syndicat. Quant à ma décision, vous la connaissez, je crois avoir été très clair, très net. Allons, mon cher Bouvreuil, nous n'avons plus rien à nous dire. Allez chez vos avoués, vos huissiers, vos avocats, allez vous repaître de papier timbré cette nourriture. Vous êtes indispensable à l'existence. Pour moi, elle est indigeste, elle me donne la nausée.
Oh!
Adieu!
Monsieur Bouvreuil,
nous nous reverrons, Lavarède.
Nous sommes à la fin du siècle dernier, c'est-à-dire que les automobiles sont rares, mais que les attelages sont nombreux. Cet animal de Bouvreuil va mettre opposition sur mes piges au journal. Il fera saisir et vendre mes meubles. Encore que ce n'est pas avec ses meubles qu'il arrivera à s'enflouer. Bref, je vais être ennuyé dans les heures qui viennent. Enfin, n'y pensons plus. Et vivons pleinement aujourd'hui.
Oh, bonsoir, Madame Dubois.
Ah, bonsoir, Monsieur Lavarède.
Alors, toujours le ménage?
Ah, bah toujours, toujours, Monsieur Armand.
C'est bien ça.
Bah, tenez, voici un pli pour vous.
Ah.
C'est un clerc de notaire qui l'a apporté. Il ne devait pas avoir votre adresse exacte ou... Et il a dû courir après vous toute la journée, au journal, au restaurant, je ne sais pas. Enfin, il est arrivé ici il y a un petit moment et il m'a bien recommandé... de le remettre en main propre. Alors voilà, c'est fait.
Merci, Madame Dubois, vous êtes une concierge idéale. Mais ôtez-moi un doute, comment pouvez-vous savoir qu'il s'agissait d'un clerc de notaire?
Ah ben moi, j'en sais rien, c'est lui qui me l'a dit.
Entre un clerc de notaire et un clerc d'huissier, la différence est mince, transparente. Oh, je crains que ce ne soit déjà Bouvreuil qui ouvre les hostilités.
Vous l'ouvrez pas, votre lettre?
Hein? Ah oui, vous avez mille fois raison. Il vaut mieux savoir à quelle sauce on va être mangé. Ah, oh là, convocation de maître Panabert. Ça, il me prie de passer le voir d'urgence à son étude rue de Châteaudun. Pour affaires me concernant. Bon, eh ben, puisque rien ne me préoccupe en cet instant, autant y aller. Hein? Maître Panabert, j'arrive. Au revoir, Madame Dubois, et merci.
Au revoir, Monsieur Lavarède.
Il s'éloigne. Soudain, on entend venir de loin un cheval au trot.
Oh !
Ah !
Et là, mais il faut faire attention, mademoiselle ! Un peu plus, vous vous faisiez écraser par ce monstre !
Oh, vraiment, je suis infiniment confuse, cher monsieur.
Ah non, mais je vous en prie, ça vaut même pas la peine d'en parler.
Non, j'ai tout vu, young man. Vous avez simplement sauvé la vie de mon fille. Give me your hand, sir. Donnez-moi votre main.
Ma parole, ils veulent m'épouser.
Oh, je vous en prie, Milord, c'est beaucoup trop. Je n'ai pas vraiment sauvé, mademoiselle, votre fille. Elle aurait eu tout le temps de traverser. J'ai seulement craint un écart du cheval. Vous savez, certains cochers conduisent n'importe comment.
Non, ne faites pas le timide, monsieur. Vous m'avez rendu un grand service.
Oh.
N'est-ce pas, père?
Oh, certainly.
Aussi, ai-je le droit de vous être reconnaissante? Je n'ai pas beaucoup l'habitude de marcher dans les rues de Paris. J'ai toujours un peu peur, surtout quand je ne suis pas sûre de mon chemin.
Et puis-je vous être utile?
Well, nous allons chez un notaire.
Hein? Ah, ben ça c'est drôle, moi aussi.
Oh, il y a un notaire que nous ne connaissons pas.
Comme moi.
Oh, je sais seulement qu'il habite rue Le Château d'Un.
Châteaudun.
Yes.
Le mien aussi.
Il s'appelle Maître Perrebol. Parabert. Ah, non, excuse me. Maître Panabert.
Ne vous fatiguez pas, Milord, je vais également chez Maître Panabert.
Oh, je dirais qu'il s'agit là d'une curieuse coïncidence. Ne trouvez-vous pas?
C'est providentiel. Souffrez, monsieur, que je vous y conduise.
Oh, il n'y a pas de doute. C'est pour la même affaire.
Il n'y a pas de doute, c'est pour la même affaire.
Le salon d'attente de l'étude de Maître Panabert, notaire à Paris.
Mesdames, messieurs, c'est à quel sujet?
Well, nous avons rendez-vous avec Maître Panabert.
Mais moi aussi.
Voulez-vous lui annoncer Sir Percy Mallington, please?
Et Armand Lavarède.
Un instant, je vous prie.
Je vous en prie.
Oui?
Maître, les voici.
Introduisez.
Donnez-vous la peine d'entrer, messieurs-dames.
Entrez, entrez. Pour un peu, je dirais que je vous attendais. Asseyez-vous, prenez les sièges. Là, là, très bien. Mademoiselle, madame.
Mademoiselle aussi.
Excusez-moi, c'est moins visible. Bon, ne perdons pas de temps. Monsieur Lavarède, monsieur Mirliton, Misserette Mirliton, j'ai l'honneur et le regret de vous informer du décès d'un de mes meilleurs clients, propriétaire du château de Marsanet dans la Côte d'Or, de deux maisons sises à Paris, rue Aubert et boulevard Malesherbes, enfin du domaine de Basslet Castle dans le Devonshire.
Basslet Castle, Devonshire.
Comme vous dites, monsieur. J'ai nommé mon client et ami défunt Jean-Edmé Richard.
Mon cousin.
Mon voisin.
Oh, incroyable.
Conformément aux intentions du défunt, je vous ai convoqué ici pour entendre la lecture du testament holographe, dûment enregistré et paraphé. Je vous passe naturellement les formules incompréhensibles de notre jargon notarial et j'en arrive à ceci. En y comprenant les maisons et propriétés ci-dessus désignées, les valeurs en rente, actions et obligations, ainsi que l'argent liquide déposé chez mon notaire, ma fortune s'élève à environ 4 millions.
My good Lord!
Comme je n'ai ni femme, ni enfant, ni ascendant, ni descendant direct, mon unique héritier est donc mon cousin Armand Lavarède.
Hein, qu'est-ce que vous dites?
Attendez, attendez. Mais je ne l'institue, mon légataire universel, qu'à une condition expresse. Ce garçon, au demeurant charmant, ne connaît absolument pas la valeur de l'argent. Il aurait au fait de disperser ma fortune à tout vent, ainsi qu'il advint dans un voyage d'agrément que nous fîmes ensemble à Boulogne-sur-Mer et qui lui coûta 2000 francs, alors que je dépensais dans le même temps 164 francs et 80 centimes. Donc, Lavarède partira de Paris avec 5 sous dans sa poche. Et comme le juif errant célèbre ses mythes, il fera le tour du monde sans avoir une autre somme à sa disposition. Il sera ainsi contraint d'être économe. Je lui donne un an, jour pour jour, pour exécuter cette clause. Il devra nécessairement être surveillé. C'est pourquoi je désigne pour l'accompagner un homme qui aura un intérêt personnel et considérable à remplir sa mission. Il s'agit de mon voisin de...
Basslet Castle?
Comme vous dites, monsieur. De Sir Percy Mirliton.
Mirliton.
Mirliton, que j'institue mon légataire universel au lieu et place d'Armand Lavarède si celui-ci n'accomplit pas rigoureusement la condition prescrite.
Moi, mais je connaissais à peine ce Jean-Edmé Richard. D'ailleurs, nous étions toujours en procès.
Sir Percy Mirliton est un homme à cheval.
I beg your pardon?
Sur ses droits.
Ah, well.
Par conséquent, et en souvenir de tous les procès que nous engageâmes ensemble, je lui crée un droit conditionnel à ma fortune. Je suis persuadé qu'il saura le faire valoir. Il est entendu qu'il perd tout droit à l'héritage et s'il commet un acte de trahison envers mon cousin Lavarède. Il doit simplement et honnêtement le surveiller. J'avoue que ce n'est pas sans un malin plaisir que je vois d'avance ce plaisantin de Lavarède inéluctablement déshérité. Fait en étude de maître Panabert et signé par deux témoins sans décor et d'esprit, la date, etc., etc. En gros, voilà l'essentiel du testament.
Mon père, vous ne pouvez pas priver d'héritage ce jeune homme qui n'est même pas votre ennemi et qui vient de me sauver la vie.
Darling, les affaires sont les affaires. Il serait ridicule de perdre sa fortune, car il est impossible de faire le tour du monde, et même d'aller de Paris à Londres avec 25 centimes.
Ainsi, vous ne voulez pas renoncer?
Non, non.
Mademoiselle, monsieur votre père renoncerait même à accepter la clause conditionnelle qui le concerne, que monsieur Lavarède ne pourrait être mis en possession de l'héritage. Il n'y a droit que sous certaines réserves expressément indiquées. Et à moins que lui-même y renonce...
Non, vous plaisantez, maître. Voilà des millions qui me tombent du ciel et je ne ferai rien pour les gagner. D'abord, les exigences de mon cousin ne sont pas irréalisables. Lorsqu'on a été de la Bastille à la Madeleine sans un centime, on peut bien aller en Amérique, en Chine ou au diable avec 5 sous.
Vous voulez essayer?
Ah, et comment?
Soit, je suis riche, mon carnet de chèques ne me quitte jamais... Je ne vous lâcherai pas d'une semelle, my boy. Et nous verrons bien si, avant le fin de semaine, je n'ai pas gagné le party.
Ah, j'accepte ce genre de duel. Maître Panabert.
Monsieur Lavarède.
Avez-vous un indicateur des chemins de fer?
Sous vos yeux, voici.
Ah, merci. Voyons, alors. Ah, il y a demain, 26 mars, à 9h du matin, un train pour Bordeaux via Pauillac. Puis, si j'en crois les renseignements fournis par les messageries maritimes... Un transatlantique à destination de l'Amérique. Sir Mirliton, je vous verrai demain matin à la gare d'Orléans. Vous m'avez bien dit, maître, que je devais être de retour en votre étude le 25 mars de l'année prochaine.
Avant la fermeture des bureaux.
Eh bien, c'est entendu, j'y serai.
Nous sommes à nouveau dans la loge de la concierge, Madame Dubois.
C'est moi, Madame Dubois. Ah, je ne fais que passer.
Monsieur Lavarède, un huissier représentant Monsieur Bouvreuil, le propriétaire, est venu saisir vos meubles.
Aucune importance, Madame Dubois. Hein? Ah oui, je suis passé au journal et j'ai pas pu toucher un sou. Monsieur Bouvreuil veille soigneusement à ma ruine. Seulement voilà, il peut pas m'empêcher d'écrire. Et j'ai pondu une petite chronique racontant l'histoire en changeant à peine les noms. Il va être ravi, Monsieur Bouvreuil. Et puis tout ça n'a aucune importance, Madame Dubois. Demain, je pars pour l'autre monde.
Oh mon Dieu, Monsieur Armand. Vous n'allez pas vous tuer? Plaie d'argent n'est pas mortelle.
Mais j'ai pas l'intention de mourir, Madame Dubois. Aller dans l'autre monde signifie pour moi me rendre en Amérique. C'est à cette condition que je pourrai recueillir l'héritage d'un parent 4 fois millionnaire. Adieu, Madame Dubois. À l'année prochaine. Non, je passerai ce soir faire ma valise. Hein.
Oh. Oh ben alors, plus dire que vous m'avez fait peur.
À la gare d'Orléans, vite! Vous serez gentil de me déposer à la gare des marchandises.
Bien, monsieur. Allez, cocotte, allez! Allez, allez, allez,
Alfred! Alfred!
Monsieur Lavarède! En voilà une surprise!
Alfred, je vais tout te raconter dans le détail. Hein? Dis-moi, tu es toujours chef du fret à la gare des marchandises.
Ah oui?
Et tu es mon ami?
Mais oui!
Alors Alfred, tu es mon homme. Ah. Allez, viens, suis-moi, nous parlerons en marchant.
La gare des marchandises du Paris-Orléans.
Alors, nous avons donc dit... Pour Panama.
Pour Panama, oui, en effet. Ah, grande vitesse. Oui. Hein, le colis doit partir demain par l'express qui assure la correspondance à Bordeaux avec le paquebot des messageries maritimes.
Oui, ça devrait pouvoir se faire.
Ah, votre chef s'y est engagé.
Oui, parfaitement. Établissez des bordereaux pour un embarquement prioritaire.
Oh, bien, chef. Tout de suite, chef.
Comme plaisanterie, c'est assez réussi. Mais la compagnie n'aura pas d'ennui, monsieur Armand.
Oh, non, ça je réponds de tout, Alfred. Et quand mon pari sera gagné, je te promets un bon dîner. Et nous finirons la soirée dans une loge à l'opéra. Hein? Ou aux Italiens. Allez, à bientôt, cher Alfred.
Hein? À votre service, monsieur Armand.
Merci. Ah.
Je vais maintenant déjeuner et ne garder sur moi que les 5 sous obligatoires. Voyons, quelques louis pour le repas avec de joyeux compagnons. Il me restera 35 sous, exactement le prix de la course. Et ça, c'est la pièce de 5 sous qui me permettra de faire le tour du monde.
Il court, la barrette, après son bel héritage.
Hey, dit Sir Merlington, il gagnera des millions.
Escorté de Miss Aurette, ce sera tous les jours la fête.
Mais les ennemis sont très nombreux, mes aïeux.
Bouvreuil étant désigné pour faire hélas tout échouer. Bouvreuil étant désigné pour faire hélas tout échouer.
Il court la barrette, mais il doit faire le tour du monde. Il court comme un fou, mais pour cela, il n'a que 5 sous.
Oh, le petit voyou, le sale petit journaliste.
Que se passe-t-il, père?
Il n'y a que Limon de la Varède a écrit toute l'histoire dans sa feuille de chou. Il m'appelle Chardonneret, propriétaire de la race des vautours non apprivoisés. Tiens, ma chérie, tiens, ma Pénélope, lis, moi j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus.
Comment?
Ce monsieur qui ne veut pas de moi héritera de 4 millions s'il réussit un tel voyage sans argent.
Mais je te dis qu'il est fou.
Il n'y arrivera jamais.
Alors là, ma petite fille, sois tranquille. Ça, il sera obligé de revenir bientôt à Paris soumis et repentant, et il s'y trouvera traqué de telle sorte dans mon réseau de papier timbré qu'il sera heureux d'accepter la paix. Avec ta main.
C'est qu'il est charmant, le monstre.
Oh! Là, un colis qui va faire le même voyage que moi.
Il va à Panama?
T'écris-tu?
On dirait un piano.
Ah, un ingénieur de là-bas qui veut charmer ses loisirs, sans doute.
Tu feras bien attention de ne pas attraper les fièvres, hein, papa?
Mais on va rassure-toi, Pénélope. Avec de l'argent, on peut même aussi acheter l'hygiène. Ça. Et puis, tu sais, je passerai là-bas très peu de temps, juste une petite inspection pour le principe. Quelques notes et mon rapport sera rédigé sur le bateau du retour. Non, je serai absent 2 semaines tout au plus.
Disons 6, c'est plus raisonnable.
Disons 6. Bon, bah ça fait rien. Allez, viens, viens ma Pénélope, je vais aller m'installer dans mon compartiment.
Well, Monsieur Lavared aurait-il déjà renoncé à l'aventure?
Oh, c'est hautement improbable.
Eh, pourtant, l'heure tourne.
Mais tu dois l'accompagner.
Et pour cela, Sweet Daughter, il faudrait qu'il soit là.
Mais peut-être a-t-il trouvé plus prudent de partir pour Bordeaux seul, avant toi.
Well, afin que je puisse pas vérifier qu'il a pris son ticket qui coûte plus de 25 centimes.
Père, dans le mouvement de la gare, tu risques de le rater. En allant l'attendre à Bordeaux, cela devient impossible. Pour embarquer sur le Lorraine, il est obligé de gravir la passerelle.
Nous autres Anglais qui sommes de grands voyageurs, cela ne peut nous gêner beaucoup. Une simple promenade, après tout.
Daddy, si tu étais gentil, tu me laisserais t'accompagner. Je te donnerai le baiser d'adieu là-bas, avant ton départ pour le tour du monde.
Et si ce monsieur arrive tout late, en retard, comment le saurais-je?
Miss Griff l'a vu hier, dans la rue, et aussi chez le notaire. Elle n'a qu'à rester ici et nous envoyer une dépêche à Bordeaux ou au bureau des messageries maritimes.
All right, darling. Vous êtes un fin stratège. Griff?
Yes, my lord.
Vous avez tout entendu?
Yes, my lord.
Execution.
Yes, sir.
Une dernière recommandation, Griff.
Yes, sir.
Quand mon fils sera de retour, vous quitterez Paris et retournerez chez nous dans la Devonshire.
Oh.
Je ne sais encore si mon absence durera longtemps ou si elle sera courte. Cela ne dépend pas de moi, mais de Monsieur Lavared. Anything case. Well, dans tous les cas, je préfère vous savoir en sécurité à la maison.
In England?
Yes, Griff. God save all the precious Victoria Queen.
Au revoir, my lord. Au revoir, my sweet little honey.
Oh, goodbye. Goodbye.
Au revoir, Griff, and good luck.
Goodbye. Bye.
Well, je crois qu'il est temps de regagner les compartiments de première.
Yes, dear. Voilà, mon petit papa. Tu es bien installé?
Ah, oh, Pénélope, ma chérie, je suis parfaitement bien.
Le train ne va plus tarder maintenant.
C'est pourquoi tu devrais descendre.
D'accord. Je vais aller faire un petit tour, histoire de voir si Armand Lavared ne serait pas dans le train.
Bon, écoute, ma chérie, enfin, ne dis pas de bêtises. Bon, il faut que je prenne quelques notes. Alors, mon carnet, mon crayon, c'est parfait. Alors, nous disons, numéro 1, choisir de préférence des hôtels anglais.
Voilà. Mais on y mange affreusement mal.
Oui, c'est vrai, ma chérie, mais je ne pensais qu'au confort, vois-tu, uniquement au confort. Alors, deuxièmement, éviter la société des Français, excepté celle des ingénieurs de la compagnie, bien sûr. Troisièmement, ne parler politique avec personne. Ben ça tombe sous le sens, n'est-ce pas? Quatrièmement, en cas de difficulté, aller voir tout d'abord le consul de France. C'est parfait. C'est absolument parfait.
En voiture, on ferme les portières, départ dans 3 minutes, voie 7. En voiture, en voiture.
À nous deux, Monsieur Lavared.
Nous venons de vous présenter le premier épisode des 5 sous de Lavared, version radiophonique par Philippe de Rèze, du roman d'Henri Chabria et Paul Divoy. avec le concours de Dominique Paturel, Lavarède, Evelyne Dandry, Miss Aurette, Philippe Clay, Sir Merliton, et Philippe de Rèze, Bouvreuil. Avec Nadia Barentin, Monique Gérard, Pénélope, Vera Feder, Maurice Bourbon, Alain Champrobert, Marcel Charvet, le notaire, et Bernard Musson. Musique originale, Edgar Bischoff. Orchestre sous la direction de Raymond Chevreux. Bruitage, Louis Matabon. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Astier et Jean-Claude Gauthier. Assistante, Marie-Vonne Noël. Réalisation, Georges Godbert. Écoutez demain à la même heure, le deuxième épisode.
Lavarède dans une case mystérieuse.
Demain, c'est tout de suite. Gagnons immédiatement la gare de Paris-Orléans.
Il court, Lavarède, après son bel héritage.
Aidé de Sir Merlington, il gagnera des millions.
Escorté de Miss Aurette, ce sera tous les jours la fête.
Mais les ennemis sont très nombreux, mes aïeux.
Bouvreuil étant désigné pour faire hélas tout échouer.
Il court, la barrette, mais il doit faire le tour du monde. Il court comme un fou, mais pour cela, il n'a que 5 sous.
Comme chaque jour, du lundi au vendredi à 18h30, nous allons retrouver Dominique Paturel,
Armand Lavarède,
Evelyne Dandry,
Aurette Merlitton,
Philippe de Rèze,
Dieu, Bouvreuil,
et Philippe Clay,
Sir Merlitton,
dans
Les 5 sous de Lavarède,
version radiophonique de Philippe de Rèze, du roman d'Henri Chabria et Paul Divoy. Musique d'Edgar Bischoff, orchestre sous la direction de Raymond Chevreux. Ambiance, Louis Matabon. Réalisation, Georges Godbert. Aujourd'hui, deuxième épisode...
Lavarède dans une caisse mystérieuse.
La gare du Paris-Orléans. Nous sommes dans le hall.
Excuse me to disturb you, sir. Est-ce que ces places sont libres?
Mais certainement, monsieur, certainement. Je voyage seul. Je vous en prie.
Well, installons-nous ici, all right?
Comme vous voulez, père.
Papa! Papa, grande nouvelle!
Mais Pénélope, mon petit poussin, qu'est-ce que tu fais là? Le train va partir?
Lavarède est dans le train.
Un peu de modération, ma chérie. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Lavarède? Mais j'ai rien vu, tu as dû confondre.
Je te dis qu'il est dans la caisse.
Il est dans la caisse?
Mais tu sais bien, la caisse à destination de Panama, celle du piano.
Monsieur Lavarède a réussi.
Oh, le procédé n'est pas banal.
Pénélope, comment as-tu appris cela?
Par la bonne.
Par la bonne? C'est insensé.
Mais pas du tout. Un des hommes d'équipe est son pays, de Santenay. Ils se sont reconnus et l'homme lui a raconté en riant qu'il avait vu un individu se glisser dans la caisse au dépôt de marchandises.
Allô.
Le signalement est celui de Monsieur Lavarède. Impossible de s'y tromper. Un sous-chef de bureau est venu, il a cloué les planches et a recommandé à l'employé témoin de garder un silence absolu sur ce qu'il venait de voir.
Oui, un silence qui s'est empressé de rompre. Parfait, parfait, je le tiens, je le ferai pincer à Bordeaux. Ces 4 millions sont flambés.
Merci, papa. Et dis-lui qu'il n'a qu'à venir à la maison.
Oui.
Que je l'autorise à me faire la cour. Et que nous nous marierons dans 5 semaines, à son retour.
C'est entendu, mon petit poussin, je n'ai rien à te refuser. Voilà. Au revoir, ma chérie. Eh ben, ça y est. Nous partons. Pardonnez-moi, monsieur, de vous adresser la parole alors que nous n'avons pas été présentés. Mais il y a quelques instants, vous m'avez paru connaître ce Lavarède dont ma fille parlait.
Oh, nous le connaissons, en effet.
Mm-hmm.
But, well, à qui ai-je l'honneur?
Bouvreuil. Bouvreuil, propriétaire, financier, président du syndicat des porteurs d'action de Panama.
Fraser Lowry. Mm-hmm. Sir Percy Merlington de Basel Castle dans Devonshire. Oh. Et voici ma fille, Aurette.
Ne seriez-vous pas, par hasard, l'anglais désigné par Lavarède dans son article des Échos sous le nom de Merlington Square?
Oh, je ne connais pas cet article.
Eh bien, voici le journal. Je m'en voudrais de vous en priver.
Hein? Oh, en effet, ce doit être moi.
Mm-hmm.
Vous? C'est l'oiseau, espèce de vautour?
Oui, tout juste, tout juste, ça. Ah bon, alors là, je veux dire, c'est un gredin, un misérable, ça.
Vous n'avez pas l'air d'aimer beaucoup, monsieur Lavarède.
Ah ben ça, c'est moi qu'on puisse dire.
Mais pourtant, mademoiselle, votre fille, il y a un instant, évoquait la possibilité de mariage entre elle et lui.
Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, seulement. C'est cette chère Pénélope qui s'est mise ça en tête, seulement. Elle veut bien, mais lui, il veut pas. Voilà, il refuse ma fille, il veut pas m'entendre parler.
Oh, excuse me.
Mais on ne fait pas un Bouvreuil de pareil affront sans s'en repentir amèrement. Je vais lui faire perdre son héritage à ce misérable petit journaliste. Il sera arrêté dès ce soir. Ça doit vous satisfaire, puisque d'après l'article, vous êtes son concurrent.
Oh, moi, je n'ai absolument rien contre monsieur Lavarède. C'est uniquement une question d'honneur. Je dois seulement vérifier sans lui créer d'obstacles.
Aucune importance. De toute façon, il ne dépassera jamais Bordeaux.
Sur les quais de la gare maritime de Bordeaux.
Monsieur Lavarède! Monsieur Lavarède!
Mais c'est vous, Miss Aurette!
N'ayez pas peur. Je viens seulement vous avertir d'un danger qui plane sur vous.
Mais que se passe-t-il?
Sortez vite de là, c'est grave!
Désolé, Miss Aurette, je ne sortirai de cette cachette que lorsque ma chambre à coucher sera embarquée à bord du paquebot et que le mouvement m'aura indiqué que nous voguons vers Colomb.
Mais on n'embarquera même pas ce que vous venez de dire de shocking.
Et pourquoi cela?
Parce que le monsieur de la race des vautours...
Ah oui, Bouvreuil.
Oui, c'est ça, Bouvreuil. Il vient dans la minute d'aller chercher des douaniers pour vous pincer dans cette drôle de boîte.
Me pincer? Fiche-toi.
Coucou. Mes hommages, Miss Aurette. Alors, Bouvreuil veut me faire pincer dans le piano, mais comment est-il ici?
Ah, ça, je ne sais pas, mais il se trouve qu'il a tout raconté à mon père.
Hein? Sir Merlington? Alors il est là aussi, mais que fait-il donc?
Il vous escorte, comme c'est son droit et son devoir.
Mais non, pas votre père, l'autre.
Il nous a raconté qu'il allait à Panama.
Ah, en effet, il me l'a dit également. Et votre père est du complot?
Certainly not. Mon père est un véritable gentleman. Il s'est engagé à ne rien faire pour que vous puissiez gagner votre pari.
Oui, mais il laisse faire l'autre, ce qui n'est pas mieux.
Ça, il ne peut l'empêcher. Mais moi?
Vous?
Yes, moi.
Oh, vous, vous êtes la Providence. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes si jolie.
Oh, pas de compliments, monsieur mon sauveur. Et trouvez vite une autre cachette, car j'aperçois les douaniers.
Merci, mon bon ange.
Mais enfin, cher monsieur, vous êtes sûr de ce que vous dites?
Évidemment.
Oh, il ne peut y avoir un homme caché dans une caisse.
Alors, ce serait un passager clandestin.
Mais peut-être, monsieur. En tout cas, voilà, notre homme est dans cette caisse. Faites votre devoir.
Là?
Oui.
Vous dites qu'un homme... est caché là-dedans?
Oui, je le dis, et peut-être que c'est un malfaiteur, que sais-je.
En tout cas, viande, viande vivante, chair humaine, marchandise non déclarée, procès verbal. La douane, c'est la douane. Essayons d'ouvrir. Ce n'est pas possible. Il ne peut y avoir quelqu'un là-dedans.
Mais puisque je vous l'affirme...
Mais regardez, je fais bouger cette caisse. Même... qu'on dirait un piano.
Oui, enfin, moi je maintiens mes déclarations faites au départ du train.
Et mes collègues, cher monsieur de Paris, vous ont fait une farce.
Mais alors, il n'y a qu'à ouvrir.
De cette façon, nous serons fixés.
Cher monsieur, primo, je n'ai pas d'outils sur moi. Et deuxio, je ne suis pas habilité à déclouer ces planches. Je ne peux le faire qu'en présence de mes chefs. Bon, je vais aller chercher quelques camarades afin de transporter ce colis suspect jusqu'au bureau de la douane. Tertio, je vais faire également prévenir le médecin au cas où il y aurait une autopsie.
Une autopsie? Oh my God, quelle horreur!
Oh, c'est ça, une autopsie, n'importe quoi! Et pendant ce temps-là, l'homme qui est là-dedans n'aura qu'à filer!
Mais cher monsieur, vous avez qu'à rester en faction, vous verrez bien quand votre homme y sortira.
Mais c'est pas possible. En faction, mais c'est pas possible.
Missoret, je vous en prie, ne restez pas ici. Il ne faut pas qu'il y ait de témoins pour ce qui va se passer.
Oh my good lord, vous n'allez pas tordre le cou du petit Bouvreuil?
Mais non, mais qu'allez-vous imaginer?
Bon, c'est bon, je retourne auprès de mon père, lui conter les événements.
Wow. Alors, ma fille?
Rien de définitif, mon père.
Monsieur Lavarède?
Je crois qu'il va s'embarquer.
Oh, alors je vais régler le prix de mon passage.
De notre passage, père.
Oh, well. Vous voulez donc m'accompagner, en fait?
Parfaitement. Je suis sûre que cette petite excursion à Panama sera très instructive. Et puis, je ne connais pas encore le centre de l'Amérique.
Well. Eh bien, et ne dit-on pas que le voyage forme la jeunesse? Mais vous n'avez pas de bagages, Aurette.
Ma valise de promenade et mon nécessaire de toilette se feront bien. Et puis j'ai encore le temps d'aller faire quelques achats. Il est temps de sortir vos banknotes, père.
Bon. Et que faisons-nous de Griff, ce cher chien de garde?
Je vais lui télégraphier de retourner toute seule dans le Devonshire.
Well, well, well. Puisque vous avez tout prévu. C'est bien.
Pas
doit être dans cette caisse. Il doit être dans cette caisse. Il doit y être, là.
Coucou, Bouvreuil.
Bon oh non, non, d'un tonnerre. Mais je savais bien que vous étiez là.
Vous vous trompez, mon cher Bouvreuil. J'étais autre part.
Oh. Alors là, je sais ce que je dis.
Pas aussi bien que moi, je vous assure. Mmh. Non, je me promène avant de faire un petit tour en Amérique. Comme vous, d'ailleurs. Seulement, moi, c'est pour fuir vos huissiers. Vos abominables huissiers.
Oui, c'est ça, c'est ça. Vous voulez filer en Amérique en voyageant d'une manière absolument frauduleuse, à l'aide d'une ténébreuse machination.
Le fait est qu'on n'y voit pas très clair dans ces planches. Ah. Ténébreux est le mot.
Ah oui, tandis que moi... Je voyage au grand jour en payant ma place, oui, monsieur, en retenant une cabine qui porte le numéro 10. Tout est payé, monsieur. Je ne voyage pas en me cachant dans les profondeurs obscures et inavouables d'une caisse à piano, moi, monsieur.
Eh, je fais ce que je peux, moi, monsieur. D'ailleurs, je ne vous empêche pas de visiter.
Hein?
Tenez, entrez donc, Bouvreuil. Et voilà. J'espère que vous ne serez pas trop mal installé.
La marraine! Gavarette, vous êtes un bandit! Un misérable, je vous somme d'ouvrir immédiatement! Au secours! À moi! Je suis Bouvreuil! Je suis
Mon client n'est plus là. Il aura perdu patience. Il a aussi bien fait. Hola, vous autres.
Oui, 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 chef.
Chargez-moi cette caisse.
Oui. Oh, oh mais elle est lourde.
C'est sûr, c'est sûr. Et même qu'elle est presque plus lourde que tout à l'heure.
Oh. Pour moi, il y a quelque chose dedans, hein.
Et t'as déjà vu envoyer les caisses. Allons. Pas de conversation privée dans le boulot. Vous le savez, les gars, le règlement, c'est le règlement.
Oui, 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 chef.
Et si ça se trouve, nous sommes devant une affaire de contrebande.
Oh.
Oui. Amenez le colis dans mon bureau. Je vais commencer par y mettre les scellés et on n'y touchera plus avant que le brigadier n'ait déjeuné. Rapport à ce que c'est lui qui donne des ordres. Il pourrait bien vous demander d'amener tout ça chez le lieutenant des douanes.
Oh.
Hein? Allez, allez. Oh. Oh. Allez.
Sur le quai d'embarquement du Lorraine, à destination de Panama, tout près de la coupée.
Cabine 37, monsieur et madame Grandier. Passez. Un steward va vous conduire.
Merci, commandant.
Mmh, voilà. Cabine 8 et 9 pour mon fille et moi. Je suis Sir Percy Merlington.
C'est parfait, on va vous conduire.
Oh, merci infiniment. Oh, chérie, veux-tu t'occuper des bagages?
Oh, mais bien sûr, Daddy.
Il me manque toujours le passager de la cabine 10. Tant pis, il va rater le bateau.
Paré à relever la coupée.
Paré.
Paré à
relever
la coupée. Attention, attention. Hé, attendez, ne partez pas. Non, la cabine 10, c'est moi. Attendez-moi, hé, hey, oh, oh non, hé, hey, attendez-moi.
Oh, eh ben,
il était temps.
En effet, monsieur, il était temps. Votre nom?
Bouvreuil, de Paris.
C'est bien cela, oui, bien, tous les passagers sont à bord. Je vais donner des ordres pour le départ. Bon voyage, monsieur Bouvreuil.
Merci.
Oh,
Oh, wow! Monsieur Lavared!
Lui-même, Sir Merliton. Votre fille n'est pas là, elle est retournée à Paris?
Non, non, du tout, elle s'occupe des bagages.
Ah, ben, je suis ravi de voyager en votre compagnie à tous les deux.
Well, oserais-je vous demander comment se fait-il que vous vous trouviez à bord? Je viens de régler le prix de deux cabines. Et même si je divise par deux, cela dépasse, et de très loin, la modique somme que vous devez avoir en poche.
Oh, mais je n'ai pas payé ma cabine. Ah. D'ailleurs, mes 5 sous, les voilà. Tenez, ils sont toujours dans ma poche.
Oh, très astucieux, monsieur Lavarin, mais cela ne répond pas à mon question.
C'est pourtant très simple. J'ai la cabine numéro 10 qui a été réglée par l'excellent monsieur Bouvreuil. Voyage en première classe, tout est compris.
Monsieur Bouvreuil a payé la cabine pour vous?
Hein? Ah non, non, pour lui.
Oh, je ne comprends pas.
Mais enfin, c'est pourtant simple, je suis dans sa cabine.
Oui, mais lui, le Bouvreuil, où il est?
Hein? Ah ben dans ma caisse à piano.
Et la caisse est à bord?
Ah non! Ben non, elle est restée à terre.
Avec le mésange dedans? My good lord! Well, ce n'est pas du tout correct,
non.
Savez-vous?
Non.
Mais ici, c'est très astucieux.
À bord du paquebot Lorraine, quelques instants avant le départ.
Vous avez réussi, monsieur Lavarade. Je vous félicite.
Oh, Miss Aurette, j'ai surmonté cette première épreuve grâce à vous. Je sais ce que je vous dois, je ne l'oublie pas.
Nous ne sommes pas encore quittes.
Oh, vous y tenez tant que cela, me devoir la vie?
Je ne tiens pas à nuire à vos intérêts.
Même aux dépens des vôtres.
Vous allez me trouver bien curieuse, monsieur Lavarade, mais... Lorsque, par hasard, j'ai jeté un coup d'œil dans votre caisse, qui était restée ouverte, il m'a semblé apercevoir un siège capitonné. Monsieur, je trompe?
Ah, pas du tout, miss.
Puis-je vous demander pourquoi et comment capitonné?
Parce que tout cela a été préparé pour faire un long voyage, Sir Merliton. Un voyage des Pyrénées à Paris, fait par un fantaisiste dont j'avais raconté l'aventure dans mon journal.
Oh.
Alors, je m'en suis souvenu, je me suis assuré que cette caisse, dont tout Paris a parlé, était encore à la gare d'Orléans, et je m'en suis servi, voilà tout.
Oh, c'est bien ce que je pensais. Vous êtes un gentleman remarquablement astucieux.
Oh, really?
Oh. Oh, tenez! Prenez donc mes jumelles.
Merci, mais où dois-je regarder?
Ne distinguez-vous pas quelque chose qui s'agite sur le môle, au bout de la jetée?
C'est sur le môle, au bout de la... Ah, ben en effet, un homme court en faisant de grands gestes. Oh, mais il est poursuivi. Et par des hommes en uniforme. Ah, ben ce sont sans doute des gendarmes.
Et à votre avis?
Oh, à mon avis, ce ne peut être que cet excellent Bouvreuil. Ce qui tendrait à prouver qu'il n'est pas mort d'apoplexie dans sa caisse. Et j'en suis ravi. Positivement ravi.
Oh, messieurs la mère.
À bord du paquebot Lorraine, la table du commandant en second.
Miss Aurette, mais comment se fait-il que vous parliez si remarquablement le français?
Oh, mais cela n'a rien d'étonnant. Comme la plupart des jeunes filles élevées en Angleterre, quand mes études ont été finies, j'ai été envoyée sur le continent pour perfectionner mon français. Je suis restée dans une institution de Choisy-le-Roi.
Mais nous venions presque tous les jours à Paris.
Oui, dans le fond, vous êtes une charmante Parisienne, comme les autres.
Oh, peut-être. Mais avec en moi la coquetterie. Un mot intraduisible en anglais.
Mais avec en plus le calme, l'aplomb que donne l'initiative et la liberté. Hein?
Mais d'ailleurs, vous savez, mon père connaît aussi très bien votre capitale. Oh. Il a dirigé fort longtemps rue de la Paix, notre succursale de Londres.
Oh, yes, oui, mais donc, yes. Non, dans toute cette histoire, je ne retiens qu'une chose. Vous êtes parisienne. Et votre père est un compatriote. Bien sûr, avec un léger accent, mais quoi, hein, c'est pas bien grave.
Ouais. Vous avez une façon d'arranger les choses qui me surprendra toujours.
C'est que M. Bouvreuil est un aimable compagnon. Toujours gai, toujours de bonne humeur.
Ça, c'est
vrai. Bon, je pense que vous avez failli manquer le départ à Bordeaux.
Il faut bien reconnaître qu'à 5 minutes près, le bateau levait l'ancre sans moi.
J'espère qu'il n'est pas indiscret de vous demander la cause de ce retard.
Mais pas le moins du monde. Je n'ai pas le plus petit secret pour le commandant, en second.
Merci.
Imaginez-vous que je suis poursuivi à Paris, et cela depuis un certain temps, par une espèce de fou. Oui, un journaliste, ou du moins prétendu tel, du nom de Lavarède. Et qui a, tenez-vous bien, la manie de se faire passer pour moi.
La manie?
Ah ça, absolument, absolument. Il est persuadé être Bouvreuil. C'est d'ailleurs une folie douce et personne n'a jugé bon de le faire enfermer. Enfin, pour l'instant. Et puis cela ne me gêne pas, j'en ai pris mon parti.
Mais dites-moi, cela doit vous causer des désagréments.
Oh, rien. Et peu de choses. Et puis nous sommes tranquilles, nous sommes en mer. Ah, bien sûr, ça, dès que nous sommes en présence, si je maintiens que je suis bien Bouvreuil et qu'il est Lavarède, alors là, bien sûr, il pique une grosse colère. Mais la sagesse n'est-elle pas de rester calme devant les élucubrations de ce malheureux?
C'est la seule conduite qu'un homme sensé puisse tenir.
Ah, ça, je ne vous le fais pas dire. Oh, croyez-vous que mon homme m'a relancé jusqu'à Bordeaux? Ah, ça, mais j'ai eu un mal fou à m'en dépêtrer. Mais enfin, c'est assez parlé de moi, hein. Commandant, depuis 2 jours que nous naviguons, nous ne devons plus être loin de Lisbonne.
Ah non, monsieur Bouvreuil, l'escale de Lisbonne est prévue pour les chargeurs réunis. Ah. Les messageries, elles, font escale à Santander.
Oh, et, voilà. Vous y attendez des passagers?
Du tout, du tout. Le bateau est complet. Il ne restait qu'une cabine. Elle a été retenue télégraphiquement par un voyageur qui embarquera à notre escale des Açores, où nous toucherons après avoir vu le Portugal.
Ah, mais c'est un voyageur français, un compatriote?
Ça m'étonnerait beaucoup.
Non? Ah oui, pourquoi?
Le nom qu'il porte n'a rien à voir avec votre pays. Et quand je dis le nom, je devrais dire les noms.
Eh bien, et dites-nous comment s'appelle ce personnage.
Ouais, dites-nous, commandant.
Don José Luis de Curramazas y Miraflor.
Ah, oui, en effet, là. Avec un nom pareil, ça sent son Hidalgo.
Ah, oui.
Nous venons de vous présenter le 2e épisode des 5 sous de Lavarède. Version radiophonique par Philippe de Rèze, du roman d'Henri Chabriat et Paul Divoy. Avec le concours de Dominique Paturel, Lavarède. Evelyne Dandry, Miss Aurette. Philippe Clay, Sir Merliton. Et Philippe de Rèze, Bouvreuil. Avec Maurice Bourbon, Alain Champrobert, Jacques Lalande, Jacques Maire, Jean Péméja et Monique Gérard, Pénélope. Musique originale, Edgar Bischoff. Orchestre sous la direction de Raymond Chevreux. Bruitage, Louis Matabon. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Astier et Jean-Claude Gauthier. Assistante, Marie-Vonne Noël. Réalisation, Georges Godbert.
Ces 2 premiers épisodes des aventures de Lavarède et de ses 5 sous ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 13 et 14 avril 1981. Lavarède gagnera-t-il son pari et empochera-t-il les millions? Réponse en lisant le roman de Paul Divoy et Henri Chabriat, les 5 sous de Lavarède. D'ici là, vous pouvez réécouter ces épisodes en ligne ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.